en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers confrères, à la base de cette communication figure l'idée que la notion d'intérêt national sous-tend la politique étrangère d'un État, quel qu'il soit, et quel que soit le degré d'interdépendance du système international du moment. C'est avec cette conviction qu'en 2016, nous avons lancé à l'IFRI un groupe de travail en vue de l'élection présidentielle de l'année suivante, dont est issu un livre publié en janvier 2017 chez Odile Jacob. Mon propos, centré sur la France, aujourd'hui, en sera largement issu. Aujourd'hui, une profonde crise économique et sécuritaire alimente un désarroi identitaire dont les ressorts sont une spécificité de l'Hexagone. Cette crise identitaire ravive des ferments de division interne tout en faisant jouer le rapport externe que les Français entretiennent avec la mondialisation. Depuis au moins 2005, la politique étrangère française apparaît davantage comme le reflet de cette crise que comme un outil utilisé pour la surmonter. Au cours des mandats présidentiels de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, son cours a varié. Existe une perception largement partagée selon laquelle la France pèserait moins sur la scène internationale, comme le reconnaissent, toujours avec tristesse, celles et ceux qui voyagent régulièrement à travers le monde et échappent aux flatteries. Son image s'est sévèrement dégradée. Existe également une perception selon laquelle de lourdes erreurs auraient conduit la France à s'écarter de sa tradition diplomatique. Cependant, la vigueur des critiques de la politique étrangère française est l'objet manifeste aussi l'importance qu'on lui prête encore. L'élection d'Emmanuel Macron a soulevé un espoir. Il est trop tôt pour dire ce qu'il en restera. La politique étrangère d'un pays est d'abord la conséquence de son histoire et de sa géographie, de ses moyens humains et matériels, de la conjoncture politique à l'intérieur et à l'extérieur. En ce qui concerne la France, elle doit être repensée dans le contexte actuel en évitant deux écueils, le déni et le dénigrement. Déni qui consiste à ne pas vouloir voir la dégradation du potentiel de la France ainsi que l'illisibilité de ses positions sur plusieurs dossiers. Dénigrement qui consiste à verser dans un discours décliniste systématique, souvent partisan, ignorant les dynamiques et le dysfonctionnement du système international. Plusieurs points méritent d'être soulignés d'emblée. En premier lieu, l'évolution du corps électoral, désormais travaillé par une contestation ouverte des élites, accusées de ne pas avoir su préparer l'avenir, semble remettre en cause le consensus antérieur en matière de politique étrangère. Plusieurs sujets, comme le rapport à Israël, à la Russie ou aux pays du Golfe, trahissent des clivages profonds qui ne sont pas toujours immédiatement visibles. En deuxième lieu, une fois élu, tout nouveau président consacre un temps considérable aux questions internationales. 50% de son temps, m'a dit un jour François Hollande quand il était président. En principe, cela requiert une intense préparation et un minimum d'expérience. En réalité, au cours des trois derniers mandats présidentiels, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron étaient peu préparés aux grands dossiers internationaux. La durée du quinquennat oblige pourtant à une action immédiate pour espérer produire des effets, action qui, en l'espèce, implique des phases préparatoires de réflexion. Même dans un régime présidentiel, il ne faut pas tout ramener à un seul homme. Cette phase initiale donne en principe un poids particulier à l'appareil diplomatique comme garant de la continuité. En troisième lieu, en raison des chocs subis de l'extérieur, de la dégradation du climat socio-économique intérieur ou de l'immense ou de l'importance croissante des phénomènes migratoires, l'intrication entre les affaires du dehors et celles du dedans s'est accrue sur bien des sujets. Au moins à court terme, la politique étrangère d'un pays se construit autour des intérêts de ses ressortissants, de ses valeurs et de ses alliances. Du point de vue de Sirius, on peut considérer l'intérêt comme une sorte d'indice synthétique de tout cela. Pour tout dirigeant politique, l'intérêt rappelle la nature prioritaire de l'égoïsme national dans ses relations avec ses pairs. Or, cette notion fait en France l'objet d'une étrange ellipse qui pourrait traduire une rupture de tradition. Comme l'écrivait Émile Bourgeois dans son manuel historique de politique étrangère, Richelieu, à la fin du XIXe siècle, Richelieu avait appris à ses contemporains, au milieu des luttes de religion qui divisaient l'Europe, que la France, je cite, « devait régler sa politique sur son intérêt seulement, que cet intérêt supérieur était d'avoir des frontières, naturelles ou non, suffisantes à protéger sa capitale et son unité séculaire, et de ne pas laisser au-delà et trop près se constituer des puissances assez compactes pour menacer l'une et l'autre. » Fin de citation. Si la généalogie de l'intérêt national mériterait une étude à part entière, son évolution récente peut être illustrée par des déclarations des présidents successifs de la Ve République. Il n'est guère difficile de trouver trace de cette notion cardinale dans les discours du général de Gaulle, qui se référait souvent à l'intérêt supérieur de la nation. Citation, c'est pas imitation, c'est vers de Gaulle, c'est lui qui parle, en tout cas que se tournent les Français. C'est de lui qu'ils attendent la solution de leurs problèmes. De mon côté, de Gaulle, je ressens comme inhérent à ma propre existence le droit et le devoir d'assumer l'intérêt national. » Fin de citation. Après son retour au pouvoir. Ses successeurs immédiats sont restés dans cette logique, chacun avec son style. Avec le sien, François Mitterrand revêtit les habits gaulliens, en particulier dans le domaine nucléaire. Citation, « La pièce maîtresse de la stratégie de la dissuasion de la France, c'est le chef de l'État, c'est moi. » Dixit Mitterrand en 1983. Progressivement, la notion d'intérêt glissa d'un registre général à un registre nucléaire. Dans un discours sur la politique de défense ayant valeur de testament stratégique, François Mitterrand déclara quelques mois plus tard, citation, « Il y a 2 ans, j'ai pensé que nous étions arrivés à un moment où l'intérêt de la France commandait qu'elle prît l'initiative d'un moratoire sur les essais, en commençant par les siens, parce que l'état du monde, à mon sens, le permettait. » Fin de citation. Son successeur, Jacques Chirac, relança une campagne d'essais nucléaires avant de le transformer en profondeur l'outil militaire français. 10 ans plus tard, il livra sa conception des intérêts, notion qui, dit-il, évolue au rythme du monde. Citation de Chirac, « La garantie de nos approvisionnements stratégiques et la défense de pays alliés sont, parmi d'autres, des intérêts qu'il convient de protéger. » Il appartiendrait au président de la République d'apprécier l'ampleur et les conséquences potentielles d'une agression, d'une menace ou d'un chantage insupportable à l'encontre de ses intérêts. Cette analyse pourrait, le cas échéant, conduire à considérer qu'ils entrent dans le champ de nos intérêts vitaux. Intérêts vitaux, expression fondamentale. Fin de citation. Par la force des choses, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron n'ont pas eu d'expérience militaire significative. Ils sont arrivés au pouvoir sans expérience internationale ni réflexion aboutie sur l'outil militaire. Au soir de sa victoire, Nicolas Sarkozy déclara dans un discours sans doute plus spontané que réfléchi « Je veux être le président de la France des droits de l'homme. Chaque fois qu'une femme est martyrisée dans le monde, la France doit se porter à ses côtés. Je ne crois pas à la réelle politique qui fait renoncer à ses valeurs sans gagner des contrats. » Fin de citation. Une fois initié au feu nucléaire, il adopta cependant la rhétorique des intérêts vitaux. Citation, Sarkozy, « Notre dissuasion nucléaire nous protège de toute agression d'origine étatique contre nos intérêts vitaux, d'où qu'elles viennent et quelle qu'en soit la forme. Ceux-ci comprennent les éléments constitutifs de notre identité et de notre existence en tant qu'État-nation, ainsi que le libre exercice de notre souveraineté. » Fin de citation. François Hollande s'inscrivit aussi dans l'héritage gaullien en indiquant, citation, « sa volonté de préserver les intérêts vitaux, toujours les intérêts vitaux, de notre nation. Je ne transigerai donc en rien, ni d'abandonnerai aucune de nos prérogatives en ce domaine. » Fin de citation. En revanche, point étrange et révélateur, Il exclut explicitement la notion d'intérêt d'une décision d'intervention militaire classique. Au lendemain du déclenchement de l'opération Serval, François Hollande déclara depuis les Émirats arabes unis que la France intervenait au Mali en raison d'une responsabilité particulière, entre guillemets, je cite, non pas parce qu'elle, la France, a des intérêts au Mali, nous n'en avons aucun, mais parce que nous avons la capacité d'intervenir. Fin de citation. Comprenne qui voudra. Tout se passe comme si l'on assistait à un effacement de la notion d'intérêt du discours général de la politique étrangère et à son confinement au discours particulier de la politique nucléaire. Les intérêts vitaux en constituent le noyau dur. Volontairement flous, leur définition reste fluctuante pour laisser une complète liberté d'appréciation et donc d'action aux décideurs suprêmes. Au fil des années, le nucléaire est devenu le principal attribut présidentiel. En théorie, cela impliquerait que le chef de l'État ait pu parfaire son éducation avant d'exercer les responsabilités suprêmes. En pratique, cette éducation s'achève souvent en cours de mandat. Valéry Giscard d'Estaing, qui n'est pas particulièrement connu pour sa modestie intellectuelle, a reconnu qu'il lui aura fallu 4 à 5 ans pour assimiler les données des problèmes liés à la dissuasion nucléaire. Qu'en est-il de ses successeurs soumis à la brièveté du quinquennat ? Cette observation conduit à la remarque suivante. Plus la politique étrangère française perd en portée, plus l'arme nucléaire et le siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, comme symbole du rang, alimentent une sorte de rengaine totémique. Tout se passe comme si le glissement de la puissance à l'influence se traduisait par la disparition d'étalonnages intermédiaires entre les intérêts vitaux uniquement appréciables par le prisme nucléaire et une influence à prétention globale impossible à mesurer. Entre ces deux extrémités existe un impensé recouvert par la notion de puissance d'influence chère à Laurent Fabius. Le discours de François Hollande devant le Congrès au lendemain du Bataclan, disant qu'il s'agissait de se battre pour préserver notre mode de vie, sikh, met en lumière l'ellipse de l'intérêt national. De ce point de vue, les mandats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande forment un continuum. Ils peuvent se lire comme un glissement dans l'élaboration et la conduite de la politique étrangère française. C'est une rupture moins voulue que subie. Pour être plus précis, elle ne correspond pas à un choix d'orientation alternative ou même à un changement de doctrine, en dépit d'une tentation initiale de Nicolas Sarkozy qui avait fait campagne en 2007 sur le thème de la rupture. Mais cela correspond plutôt à une modification des priorités et à une mutation du système international. La politique étrangère est de plus en plus subordonnée aux enjeux de politique intérieure. Cette évolution s'observe dans la plupart des régimes démocratiques et s'explique largement par la lame de fond numérique qui remet en cause les formes traditionnelles d'action politique. L'émergence de nouvelles puissances réduit mécaniquement le poids de la France. Sa rente diplomatique connaît un rendement décroissant à cause de son affaiblissement économique, mais aussi de choix dictés par l'émotion ou les passions et la communication. Notons aussi que les personnalités de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, davantage sans doute que celles d'Emmanuel Macron en raison de son histoire personnelle, entrent en ligne de compte, car ils appartiennent à une génération qui peine à inscrire son action dans différentes échelles de temps. Les attaques terroristes accentuent cette tendance et favorisent les comportements réactifs. Cette génération dispose de marges de manœuvre réduites, tout en devant répondre à des actions directes sur le territoire national dans un contexte de rétrécissement de la France à l'échelle globale. Pas facile d'être président dans de telles circonstances, comme disait François Hollande. Son mandat a créé un fort effet de contraste entre une autorité présidentielle affaiblie et un attrait pour l'aventure extérieure qui a encouragé le président à surjouer son rôle de chef de guerre pour mieux se singulariser vis-à-vis de ses rivaux politiques. Se déclarer en guerre contre Daesh en éludant la notion d'intérêt produit cependant un effet de vide qui accentue le décalage entre les décideurs politiques et la réalité historique. En mai 2016, François Hollande déclarait dans le cadre d'une émission radiophonique avoir pris davantage conscience depuis son élection du caractère tragique de l'histoire auquel il disait cependant s'être préparé. Je le cite à nouveau, « Je savais qu'à tout moment le pire pouvait surgir et il a surgi. » Et de préciser, le rôle du chef de l'État ou d'un responsable, c'est à un moment de saisir l'inattendu pour le remettre dans une logique rationnelle et de pouvoir être efficace face à ce surgissement. » Fin de citation. De quelle base intellectuelle disposait-il pour bien analyser ce surgissement ? Je le cite, « Un président, heureusement, n'agit pas qu'avec des fiches. Et je veux quand même, c'est Hollande qui parle, je veux quand même vous laisser penser que ma culture personnelle, ma connaissance historique m'ont permis justement de bien analyser ce qui se produisait. » Mais moi, Hollande, je m'appuie sur tout ce que peut me fournir le Quai d'Orsay ou ce que peut me fournir le ministère de la Défense, mais pour avoir cette profondeur d'analyse et cette compréhension des phénomènes qui sont en cours, le travail de recherche est indispensable. » Fin de citation. À la position qui est la mienne, je ne peux qu'être sensible à cette conclusion. Le plus souvent, l'analyse académique de la politique étrangère française se fait en fonction de l'héritage du général de Gaulle. Elle porte sur la continuité gaullo-mitterrando-chiracienne et les éventuelles velléités de rupture. Cette analyse conduit à s'interroger sur la pérennité de cet héritage et son adaptation à un système international caractérisé par un déplacement des pôles de puissance. La grandeur gaullienne s'est inscrite dans les représentations en créant un fort effet de contraste avec la IVe République. Celle-ci avait cependant préparé un terreau favorable à l'action du général de Gaulle, à laquelle le dernier coup d'éclat de la diplomatie française fait directement écho. En s'opposant à l'intervention anglo-américaine en Irak au Conseil de sécurité des Nations Unies en 2003, Jacques Chirac et Dominique de Villepin avaient fait preuve de jugement sur le cours des événements, mais surtout, à mon sens, d'excès de confiance sur leur capacité à les modifier. Le multilatéralisme et le droit international ne sont pas parvenus à contrecarrer l'unilatéralisme de Washington. C'est le double rapport des élites et du corps social à la mondialisation et à la construction européenne qui constitue aujourd'hui la question la plus sensible. Ont-elles une vision adaptée ou erronée du monde et de la place que la France peut y occuper? Partagent-elles encore une vision commune? Comment comprendre la contestation dont elles sont l'objet? Rétrospectivement, l'année 2005 marque un nœud d'où partent les bifurcations qui sont apparues depuis. Tout d'abord, elle marque le changement d'ère de l'islam en France. En janvier 2005, Abou Moussab al-Souri met en ligne les 1600 pages de l'appel à la résistance islamique mondiale, mode d'emploi du djihad à l'ère numérique. À l'automne 2005, les émeutes urbaines obligent le gouvernement à instaurer l'état d'urgence pour la première fois depuis la guerre d'Algérie. Ensuite, 2005 est marqué par le non au référendum sur le traité établissement une constitution pour l'Europe. Cette année-là marque la tardive prise de conscience, avec le rapport de notre confrère Michel Pébrot, du niveau d'endettement des administrations publiques multiplié par 5 entre 1989 et 2005. Ce niveau d'endettement s'accroît de manière spectaculaire après la crise financière mondiale de 2008, qui entraîne la transformation du G20 sous l'impulsion de Paris en instance de pilotage économique. C'était du moins l'ambition initiale. Au croisement des questions européennes et des questions budgétaires se trouve un des fils rouges du positionnement international de la France depuis le traité de Nice, entré en vigueur en février 2003, le non-respect de ses engagements européens en matière de finances publiques. Reste à voir si Emmanuel Macron parviendra à renverser durablement cette situation. Les fils du nœud de 2005 courent la séquence qui s'est ouverte en 2007. Sous le mandat de Sarkozy et celui de Hollande, l'oligopole décisionnel n'a pas toujours su relever un défi impliquant deux tendances lourdes, en partie corrélées. L'accélération de la transition numérique et la multiplication des crises internationales qui touchent directement les Français. Sur le plan stratégique, la transition numérique se traduit par une rivalité entre puissances, surtout entre les États-Unis et la Chine, et par l'apparition de nombreux acteurs non institutionnels pouvant disposer d'une influence globale. Sur le plan économique, où on assiste au passage d'une économie de consommation de masse à une économie de consommation personnalisée. La France peine à créer de la valeur ajoutée sur son territoire grâce au numérique et souffre d'un déclassement économique qui affaiblit sa puissance globale. Sur le plan diplomatique, le numérique accélère la diffusion de la puissance à l'ensemble des acteurs sociaux. Cette diffusion a ouvert un débat sur le degré de démocratisation et de transparence, entre guillemets, mais aussi de désinformation et de manipulation, tout ça avec des guillemets, des politiques étrangères, en introduisant de nouvelles pratiques. Plus profondément, les affaires WikiLeaks et Snowden, entre autres affaires, apparaissent comme une dénonciation de la raison d'État et une réfutation du secret en revendiquant une nouvelle pratique diplomatique. Le numérique accentue pression médiatique et immédiateté. L'une et l'autre s'exercent sur la politique étrangère. L'analyse de cette dernière doit désormais prendre en compte plusieurs facteurs, parmi lesquels les interactions à chaque instant entre action diplomatique et exploitation médiatique, mais aussi la manière dont certains pays parviennent à l'influencer. Cette influence peut notamment s'exercer par des canaux religieux. On touche là un point devenu de plus en plus sensible, qui est la place à réserver aux faits religieux dans la politique étrangère française. Et par voie de conséquence, la place à réserver à la laïcité, singularité française. Si la tentation peut exister dans certains milieux de faire de la laïcité une marque de fabrique, elle ne constitue pas un levier d'action diplomatique. En effet, la laïcité résulte d'un système juridique complexe enraciné dans une histoire spécifique. Ce système n'a nullement vocation à être exporté tel quel. Laurent Fabius l'a d'ailleurs lui-même reconnu quand il était ministre des Affaires étrangères. La difficulté actuelle à raisonner en termes d'intérêt national s'explique fondamentalement par la crise identitaire traversée par notre pays. Il n'en demeure pas moins que la redéfinition de ses intérêts en lien avec ses valeurs et ses alliances apparaît indispensable au double exercice de la puissance et de l'influence en tenant les émotions ou les passions à bonne distance afin de retrouver le sens de la durée. Par ailleurs, intérêts et valeurs combinés doivent permettre le discernement, le jugement et la capacité de décision. La notion de puissance concerne le passage du virtuel au réel, c'est-à-dire le passage à l'acte, à la fois discontinuité et choix. L'exercice de la puissance implique, en outre, de disposer d'un portefeuille de ressources dont la gestion s'opère à différentes échelles de temps. La notion d'intérêt est cruciale pour les élaborer en prenant soin de ne pas définir le potentiel d'une unité active ou politique comme l'évaluation de ses ressources et en gardant à l'esprit que l'évaluation de la puissance d'un État inclut aussi un effet d'escompte au sens de la notion financière d'actualisation, effet largement subjectif. Urgente, je veux dire par exemple qu'il y a 15 ou 20 ans, on anticipait le développement de la Chine comme s'il était déjà là. Maintenant, il commence à être là. Urgente est la nécessité de refonder la politique étrangère française en préférant la raison à l'émotion, le discernement à l'invocation et le débat à la polémique. À court et à moyen terme, les questions doivent être formulées dans un contexte marqué par une série de ruptures récentes, comme le Brexit et l'élection de Donald Trump, qui modifient en profondeur les cadres de la diplomatie européenne et internationale. Sur le long terme, symboliquement, à l'horizon 2049, centenaire de la victoire de Mao, la question la plus fondamentale pour la France est la place de l'Europe, l'Union européenne, mais aussi la Russie et les autres, face à la rivalité sino-américaine et le possible, sinon probable, avènement de la Chine à la primauté dans le monde. Ces ruptures invitent à reconsidérer le positionnement diplomatique de Paris et, a fortiori, les conditions de l'ancien consensus en matière de politique étrangère. Celui-ci est mis à mal par des clivages accentués par tant de changements plus ou moins brutaux. Raison de plus pour aller à la recherche de notre intérêt national dans le sens le plus fondamental du terme, du point de vue du très long terme, la diplomatie française a su obtenir des résultats tangibles, quoique extrêmement fragiles, sur la lutte contre le changement climatique avec la COP21, grâce à son savoir-faire et une évolution des consciences. En filigrane apparaît une méthode de travail susceptible, on l'espère, de favoriser le traitement d'autres dossiers transversaux à l'échelle globale, mais on est encore extrêmement loin du compte. À ce stade de l'exposé, je me propose d'entrer avec un peu plus de détails sur les significations du mot « intérêt ». Émile Littré en distingue au moins 5. De la manière la plus large, il peut se définir comme ce qui importe, comme ce qui compte, et par voie de conséquence, se décompte. Pas d'intérêt sans considération du temps. Si l'intérêt est souvent associé à la dette, Albert Hirschman rappelle que le terme ne concernait pas seulement à l'origine les aspects matériels de la personne, mais englobait la totalité de ses aspirations en introduisant des éléments de calcul dans leur poursuite. Se référant aux travaux de Friedrich Meinecke sur Machiavel, Albert Hirschman explique que, pour l'auteur du Prince, les termes « interesse, interesse, ragione di stato » étaient initialement synonymes. Il définissait deux fronts. D'une part, une déclaration d'indépendance à l'égard des principes moraux dans la manière de gouverner, mais de l'autre, une volonté rationnelle qui ne serait pas perturbée par les pulsions et les passions dans la manière de se comporter. Machiavel s'est concentré sur le premier front sans toutefois délaisser le second, qui fait apparaître des contraintes dans l'action des gouvernants. Ce front qui concerne le comportement des dirigeants semble aujourd'hui passablement délaissé. Ces notions traversent les Alpes pour se diffuser dans les royaumes de France et d'Angleterre à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. Au passage, notons que Friedrich Meinecke établira ultérieurement une jonction intellectuelle entre la raison d'État française et la Realpolitik allemande. Pour Albert Hirschman, l'intérêt forme un ménage à trois avec la passion et la raison. Il permet de maîtriser les passions humaines en ouvrant le champ de la prédictabilité et de la constance. Inscrit dans la durée, l'intérêt a une valeur de régulation des passions dont l'expression peut s'avérer destructive. Prédictibilité et constance offrent aux différents acteurs sociaux la possibilité d'agir plus sûrement. À partir de la fin du XVIIe siècle, les intérêts des groupes et des individus ont progressivement été formulés en fonction de leurs aspirations économiques. C'est venu tardivement, bien sûr. David Hume décrit la passion du gain qui modifie inévitablement la compréhension de l'intérêt général ou national. En France, la notion d'intérêt a connu une évolution liée à l'absolutisme. À l'instar du souverain, les moralistes ne se préoccupaient pas seulement de la richesse, mais aussi de l'honneur et de la gloire. Or, l'absolutisme se traduisait par une forte concentration du pouvoir et de la gloire qui conduit le commun des mortels à privilégier la dimension économique de l'intérêt pour singulariser sa trajectoire. Progressivement, donc, la notion d'intérêt personnel devint un paradigme absorbant vertu et passion. Cela se retrouvait dans les relations entre les puissances. La maxime « interest will not lie », dérivée de la formule du duc de Rohan, « l'intérêt seul ne peut jamais manquer », cette formule donc se transforma avec l'idée que l'intérêt est le plus sûr moyen de concevoir les actions de l'autre et de les envisager dans un cadre. Ce que fait la théorie des jeux, par exemple, pour ceux qui connaissent. Interest governs the world, l'intérêt gouverne le monde. Max Weber, plus tard, reprend ce principe en l'affinant, je le cite, « Ce ne sont pas les idées, mais les intérêts matériels et idéaux qui gouvernent directement la conduite des hommes. Mais, ajoute-t-il, très souvent, les images du monde qui ont été créées par les idées ont, comme des aiguilleurs, déterminé les voies dans lesquelles l'action a été poussée par la dynamique des intérêts. » Fin de citation. Aujourd'hui, les trois grandes écoles, réalistes, libérales et constructivistes, dans le domaine des relations internationales, abordent différemment la notion d'intérêt, qui définit à elle seule la première, l'école réaliste, pour laquelle les États cherchent à défendre leurs intérêts pour maximiser leur puissance. Égoïste par nature, l'intérêt national transcende forcément les intérêts privés subnationaux dans la mesure où il est synonyme de sécurité de l'État, sans laquelle les particuliers ne peuvent poursuivre leurs intérêts privés. Pour l'école libérale, l'intérêt national équivaut, au terme d'un processus complexe et mouvant, à l'intérêt des acteurs majoritaires au sein de la société. Pour l'école constructiviste, l'intérêt national est une construction sociale qui se transforme sans cesse au gré des pratiques les plus diverses, idées, discours, normes, croyances, etc. Quoi qu'il en soit de ces distinctions, la question de l'intérêt national est consubstantielle à celle de sécurité nationale. À partir de ce principe, l'unité politique est confrontée à une série de dilemmes sur lesquels les différentes forces politiques, sociales ou économiques, ainsi que l'opinion, dont on a parlé l'an dernier, prennent position. Au sens le plus large du terme, la sécurité se conçoit comme la préservation de l'identité. Samuel Huntington subordonne, selon moi à juste titre, la définition de l'intérêt national à celle d'identité nationale. Je le cite, « Nous devons savoir qui nous sommes avant de pouvoir savoir quels sont nos intérêts. » Son dernier livre, d'ailleurs, s'appelle « Who are we ?» Il parlait « Who are we ?» c'est-à-dire les Américains. L'intérêt national s'apparente donc à un bien public. Dans un système démocratique, l'intérêt national peut se définir simplement comme le corps de priorité faisant l'objet de consensus entre les dirigeants et le corps social concernant les relations avec le monde. Encore faut-il que ces consensus existent. Dans cette optique, ils sont plus larges que les intérêts stratégiques et englobent des valeurs comme la démocratie elle-même et les droits de l'homme, valeurs pour lesquelles il faut être prêt à payer un prix. Dans un régime démocratique, il n'est pas possible de distinguer complètement une politique étrangère basée sur des valeurs et une politique étrangère basée sur des intérêts, dans la mesure où les valeurs sont simplement des intérêts intangibles. Pour autant, un régime démocratique doit toujours être en mesure d'établir des relations avec des régimes autoritaires et surtout ne pas verser dans un discours de diabolisation, principe fondamental de politique étrangère. En termes « policy-oriented », qui ne recouvrent pas toujours ceux du débat académique, le réalisme correspond prioritairement à une analyse des rapports de force et non pas des rapports à un idéal type politique ou moral. L'inverse conduit à une forme d'irréalisme conduisant à faire des valeurs la norme absolue. En d'autres termes, le réalisme se définit comme la capacité de prendre en compte dans les calculs l'intérêt et le système de valeurs de l'autre qui n'est pas forcément appelé à entrer dans une logique de conversion. Arthur Schlesinger mérite d'être relu dans cette optique. Le problème vient souvent de l'assimilation faite entre le comportement des individus et celui des États. Or, selon lui, Schlesinger, ce sont deux registres différents, voire antinomiques. Si les valeurs morales jouent directement un rôle fondamental dans la conduite de la politique étrangère, ce n'est que dans des cas extrêmes, comme la décision nucléaire, dont il a été question la semaine dernière. Leur fonction n'est certainement pas de formuler des principes abstraits et universels pour prendre des décisions de politique étrangère. Leur fonction est bien plutôt d'éclairer, de contrôler les interprétations de l'intérêt national. Le rigorisme de ceux qui appliquent leurs critères personnels moraux à la complexité du système international dégénère facilement vers des formes d'absolutisme et de fanatisme. La morale des États commence par l'acceptation que les autres États ont eux aussi des traditions, des intérêts, des valeurs, des droits et des contraintes. En d'autres termes, il faut porter intérêt aux intérêts des autres. Je m'achemine maintenant vers la fin de cette communication, avec quelques orientations opérationnelles. Les hommes pensent d'abord, ensuite ils se déterminent d'après leur manière de penser. C'est pourquoi il importe de penser juste. Les erreurs des gouvernements et des peuples sont celles de leur esprit. Tout ça, c'est Jacques Bainville, qui invitait ses lecteurs à penser historiquement. Non pas en fonction d'un sens ou d'une fin de l'histoire, mais en fonction des diverses orientations qu'elle aurait pu prendre à partir de tel ou tel événement ou de telle ou telle décision. La réappropriation de la notion d'intérêt national passe en premier lieu par une relecture moins sélective de Machiavel. Si les dirigeants politiques semblent avoir fort bien assimilé le premier principe d'indépendance par rapport à des préceptes moraux dans la manière de gouverner, ils semblent ignorer le second principe de contrôle de leur comportement, de leurs pulsions et de leurs passions. Or, l'intérêt sert précisément à cela. La tentative de contrôle des événements commence par la capacité à se contrôler soi-même. Évidence volontiers oubliée à l'heure d'une communication politique qui s'épuise à suivre, voire à susciter les émotions de l'opinion sans rien dissimuler de celles des dirigeants. À cela devrait s'ajouter l'absolue nécessité pour ces derniers et leurs entourages de maîtriser les ressorts de leur histoire diplomatique dont le fondateur Albert Sorel faisait de l'intérêt national le fondement de toute politique extérieure en établissant une continuité entre la monarchie et la République, tout en estimant que la France devait renoncer à toute croisade idéologique. S'il n'est évidemment plus possible de conserver une conception étroitement statocentrée des relations internationales, il est nécessaire de conserver un principe de retenue pour résister aux tentations d'aventures extérieures. Il n'en demeure pas moins que les États constituent encore l'armature du système international autour de laquelle gravite une nuée d'acteurs. La complexité du système réside dans les interactions incessantes entre ces structures étatiques produites par l'histoire et le halo de plus en plus dense qui les enveloppe, produit en continu par la multitude des contacts humains et les connexions électroniques. En deuxième lieu, la notion d'intérêt introduit un principe de calcul et de graduation qui oblige à inscrire l'action dans différentes échelles de temps. Cela implique une capacité et une volonté de bien dissocier intérêt immédiat de court, de moyen et de long terme, et donc d'intégrer à l'action plusieurs types de chronologie. Il ne faut pas laisser la gestion de crise tenir lieu de politique étrangère, or cette tendance tend à s'accentuer. En troisième lieu, la notion d'intérêt national oblige à maîtriser les traditions diplomatiques pour une raison simple. Si les valeurs ont tendu à éclipser l'intérêt dans le discours français de politique étrangère, ce n'est le cas ni chez ses alliés, ni chez les pays émergents. Trois règles diplomatiques gagneraient à être davantage observées. La première est celle de la réciprocité en matière de négociation. Dans le cadre des relations avec les États-Unis, elle rappelle que seule une Union européenne forte serait en mesure d'établir un rapport de force avec Washington dans le domaine commercial, financier, numérique ou pour ce qui a trait aux sanctions vis-à-vis des pays tiers. La deuxième est celle de la sélectivité pour établir des priorités afin d'éviter une dispersion des engagements internationaux et de limiter les tensions dangereuses sur nos moyens d'action. La troisième règle, enfin, est celle du recours au secret à l'ère numérique. Depuis Machiavel, l'intrication entre pouvoir et secret repose sur l'idée d'une insuffisance du droit pour garantir l'efficacité de l'action publique. Les affaires WikiLeaks et Snowden ont marqué un tournant. Elles ont correspondu à des effractions publicisées du domaine réservé de la politique étrangère au nom d'un projet politique citoyen. Sans recourir au secret, impossible de mener des négociations et d'obtenir le moindre compromis. Je cite Jules Cambon, bien connu de ceux qui s'intéressent à la politique étrangère en France. « Pour si peu que l'on ait été responsable des intérêts de son pays à l'étranger, on se rend compte que le jour où il n'y aurait plus de secret dans la négociation, il n'y aurait plus de négociation du tout. » Fin de citation. Cela dit, il n'y a jamais eu autant besoin de canaux de coopération, d'expertise complexe et de savoir-faire international. Il n'y a jamais eu autant besoin d'outils comme ceux offerts par les politiques étrangères pour façonner le système international et limiter les risques de perte de contrôle. La lutte contre le changement climatique illustre la nécessité de trouver de nouvelles interactions latérales entre les forces politiques, économiques, scientifiques et civiques. Dans cette optique, la politique étrangère devrait servir à identifier et à formuler des objectifs communs, atteignables, non seulement entre appareils d'État, mais aussi entre appareils d'État et société civile. À défaut, le risque serait de voir les États s'orienter vers une souveraineté non pas solidaires, mais solitaires, limités à la seule défense de leurs intérêts nationaux les plus étroitement conçus. Il importe de ne pas poser les problèmes internationaux en termes de simples intérêts immédiats, mais d'être en mesure, sur le plan intellectuel et organisationnel, d'identifier les courants profonds de nature géoéconomique et géopolitique. À une approche réactive essentiellement dictée par la pression médiatique, il faut ajouter une capacité d'anticipation, d'analyse et d'explication des grandes questions internationales, en incluant les logiques territoriales et de flux. Il faut repenser les modalités d'action en fonction d'un meilleur équilibre entre intérêts étroitement conçus, valeurs et alliances, sur lequel construire une politique étrangère dynamique et efficace. Intégrer systématiquement l'intérêt aux phases de réflexion et d'action introduit une logique de calcul et de graduation, ainsi que différentes échelles de temps. Cela ne signifie nullement qu'il faille renoncer aux valeurs souvent caricaturées de droit de l'hommisme. Mais il convient sans doute de bien distinguer les valeurs constitutives du pacte social proprement français de celles que certains voudraient exporter par de nouvelles formes de messianisme. À cet égard, la politique étrangère française gagnerait à observer les vertus cardinales de prudence, de tempérance, de courage et de justice. En ce qui concerne les alliances et les unions politiques, elles offrent précisément un cadre temporel sur plusieurs décennies et encouragent le passage d'une souveraineté solitaire à une souveraineté solidaire. Cependant, les logiques d'alliance peuvent aussi aboutir à des conduites mimétiques au détriment de ses propres intérêts et systèmes de valeurs. C'est pourquoi il importe de toujours chercher à développer les capacités à penser le monde par soi-même. Au-delà de la recherche d'un équilibre dynamique durable entre intérêts étroitement conçus, valeurs et alliances, la politique étrangère française doit s'adapter à deux mutations en partie corrélées, l'émergence très rapide d'une multitude interconnectée et le désarroi identitaire. Un réaliste aujourd'hui commence par reconnaître l'interdépendance grandissante, non seulement entre les États, mais aussi entre les États, les acteurs sociaux et la multitude, ainsi que les inévitables mutations de la souveraineté. Rompu à la dialectique passé-présent, un réaliste aujourd'hui devrait refuser de s'y enfermer et accorder la plus grande attention aux discours portant sur le futur, proche et lointain, ainsi qu'au jeu de perception entre acteurs. Cette forme de réalisme n'est pas évidente pour tous ceux qui se prétendent réalistes au nom du souverainisme. Le débat sur l'identité nationale a de profondes conséquences sur l'organisation de l'activité économique du pays et ses relations économiques et les relations économiques entre États. S'il est vrai que le nationalisme économique a du mal à penser l'interdépendance, il n'en demeure pas moins qu'il est souvent assimilé au souverainisme et au protectionnisme, à contre-courant de la doxa néolibérale. Si le nationalisme économique peut évidemment être source de tensions entre États, il est aussi une manière de créer les conditions de coopération économique. En effet, il comporte une forte charge sociale liée à la protection de la nation qui permet de justifier des sacrifices pour atteindre des objectifs conformes à un projet de société. C'est bel et bien la quête du modèle politico-économique de la France et de son positionnement européen qui doivent lui permettre de se réapproprier la notion d'intérêt national, beaucoup plus que les querelles sur les pures questions de société. L'enjeu désormais est d'élaborer ce modèle, puis de combiner au mieux politique économique et politique étrangère dans un environnement stratégique qui se dégrade. Ce devrait être l'objectif d'une politique ambitieuse qui permettrait à la France de rester un acteur de l'histoire alors que la révolution technologique continue de s'accélérer et que la compétition entre la Chine et les États-Unis pourrait déboucher sur de grands affrontements ou sur une nouvelle forme de partage du monde. Je vous remercie.